m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et oui, bienvenue sur Radio Courtoisie, dans l'émission Restons Courtois, dirigée aujourd'hui par ma pomme, Richard de Sèze, et hier Pierre-Alexandre Bouclet, demain par Arthur de Vatrigan. C'est une vaste chaîne qui depuis 2025 vous entraîne chaque jour dans des émissions de débat, ou de pas trop débat, mais de discussions intéressantes. Et aujourd'hui, on va parler un peu de mort, on va parler un peu de masque, on va parler un peu d'euthanasie, on va parler de fin de vie, on va parler de droit à mourir, puisque l'idée c'est qu'il y a enfin une conquête démocratique qui a été conquise, bien sûr, dans le respect des droits de l'homme, de l'humanité. Aucune bête n'a été malmenée, aucun député n'a été insulté, ou plutôt si, d'ailleurs, les trois quarts des députés qui étaient contre la loi pour la fin de vie, contre le droit à mourir, ont au contraire noté à quel point les débats avaient été pénibles, houleux et méchants. On en donnera quelques exemples. Pour parler de ce sujet qui n'est pas terminé, puisque voilà, la loi continue sa navette, malgré les triomphes permanents claironnés par Olivier Falorni, qui est le rapporteur modem de cette loi, qui a pleuré de joie lorsqu'elle a été adoptée en troisième lecture, comme il le dit lui-même, par l'Assemblée nationale. Eh bien, tout n'est pas perdu, les écarts se réduisent entre les partisans et les opposants, et il y a notamment la grande croissance de ceux qui refusent de prendre parti, ce qui, malgré tout, est à la limite du courage intellectuel de nos jours, où, devant quelque chose salué par Emmanuel Macron, le fait de ne pas être d'accord s'apparente évidemment à quelque chose d'extrêmement séditieux, pour ne pas dire de fasciste. Pour parler de cette fin de vie, autour de nous, autrement dit de Marie-Charlotte du Bourblanc, que je salue au passage, plusieurs personnes de qualité, dont François Marchand, qui vient d'écrire dans la Dignité, il vient de le publier dans la Dignité, aux éditions Buchet-Chastel, un petit roman tout à fait satirique et cynique et mordant sur la fin de vie. Ensuite, le professeur Cosset, qui avait signé une très bonne chronique dans le Point, euthanasiste, un métier d'avenir, où il vantait en fait le métier d'euthanasiste, et qui d'ailleurs se rapproche énormément du médecin que vous mettez en scène, François Marchand. Et enfin, Isaure Delay, qui nous rejoindra tout à l'heure et qui est capable de courir le marathon en robe de bal pour attirer l'attention sur elle, mais surtout sur les soins palliatifs. Bonsoir François Marchand.
Bonsoir Richard.
Alors, vous êtes écrivain depuis un certain temps, vous avez publié plusieurs livres, et je reçois donc en mars ce petit livre. Alors je dis petit parce que voilà, ce n'est pas un roman de 500 pages de black romance en train de décrire les amours compliqués d'une magicienne de troisième niveau avec un elfe X ou Z. Donc tous ces bouquins fascinants en 18 volumes que la culture anglo-saxonne déverse sur nous. Non, c'est un roman français, un petit roman satirique où vous mettez en scène un héros, le docteur Combes, qui est un homme gentil, le bon docteur Combes, c'est la première partie, qui pratique des euthanasies, ce qu'ils en appellent le traitement de fin de vie, TFV, et non pas TGV. Et vous décrivez en fait un personnage gentil, aimable, qui a une vie un peu grisouille, voilà, sa femme, sa fille qui lui fait la gueule, parce que c'est une grande adolescente, sa femme qui est psychiatre, et donc qui est gentille comme tout, et qui comprend les problèmes de son mari. Et puis voilà, il va visiter les gens qu'il tue, et à chaque fois, il essaye de leur expliquer comment ça marche, de vérifier avec eux qu'ils ont bien rempli les différents formulaires, de les rassurer sur le fait que ça ne fait pas mal. Il papote un peu avec eux et il les expédie ad patres. C'est à la fois drôlissime et glaçant, parce que on sent à quel point l'euthanasie fait dorénavant partie du quotidien, du parcours de soins, comme on dirait chez les administratifs. Et on sent que c'est parfaitement réglé et que la France a basculé dans une horreur quasiment nazie, mais avec le sourire et le sentiment bien humaniste d'avoir respecté les règles.
Oui, c'est ce qui va se passer. De toute façon, ça se passe déjà hein, depuis longtemps. Mais là, ça va être industriel. Je crois que de toute façon, Parce que je pense que ça va vraiment se développer parce qu'on arrive au bout de l'indifférenciation généralisée. Il y a eu, ça fait deux ou trois siècles qu'il y a une indifférenciation qu'on voit partout dans les sexes, les genres et tout ce que vous voulez. Indifférenciation générale. Et là, on arrive au bout, je crois, c'est l'indifférenciation, la différence entre la vie et la mort s'estompe. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que il y a un chapitre où il y a un jeune qui va se faire buter en Belgique, là. On sait même pas pourquoi il demande euthanasie, d'ailleurs, il le sait peut-être pas lui-même. C'est-à-dire que, je crois que la grosse différence avec nos ancêtres, c'est que nos ancêtres avaient des vies avec énormément de joie, dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Beaucoup de plaisir et énormément de souffrances, des souffrances comme on n'a pas idée. Donc la différence entre la mort et la vie n'était pas une question, c'était évident pour tout le monde. Aujourd'hui, je crois qu'avec la vie qu'on mène, l'amplitude entre les plaisirs, les joies et les souffrances est très faible. C'est-à-dire qu'il y a très peu de souffrances, très peu de joie aussi, plus du tout quasiment dans tous les domaines. Et en fait, du coup, la différence, oui, entre la vie et la mort s'estompe. Et il y a un des personnages qui dit, enfin, on se demande s'ils vont pas dire à un moment donné pourquoi pas, quoi, l'euthanasie, pourquoi pas, après tout. D'ailleurs, même le juge le dit à un moment donné, bon, est-ce que être vivant, c'est. Parce qu'à un moment donné, il se trompe, le docteur Combe, il bute un mec par erreur à l'hôpital, parce qu'il y a une infirmière qui a fait une erreur. Donc il administre, enfin, il tue quelqu'un qui était juste là pour un examen de routine. Et le juge dit, mais bon, de toute façon, vous ne serez pas poursuivi, parce que bon, il faudra qu'il démontre, enfin, la famille démontre que ne plus être vivant, c'est un préjudice, quoi, ce qui n'est pas évident. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'on arrive au bout de trois siècles de pensée des Lumières, c'est-à-dire l'indifférenciation totale.
Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, vous nous présentez des personnages qui n'ont pas de grandes raisons de mourir. On les sent plutôt là de vivre. Et effectivement, quand on leur demande ce qui a été important dans leur vie, ils peinent un peu à répondre. Il y en a un qui tient absolument à expliquer toutes les courses qu'il a réussi à courir en regardant des trophées un peu poussiéreux. Il y en a un autre qui regarde la collection des albums de photos qu'il a réalisé lors de ses différents voyages. Effectivement, il y en a pas un seul qui explique qu'il a réussi de grandes choses ou qu'il a traversé de grandes souffrances, qu'il s'est arraché de la glaise d'une condition inférieure pour arriver au pinacle. Non, pas du tout. En fait, ils ont des vies grises et donc ils ont une mort grisounette elle-même.
Bah, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence énorme entre le passage de la vie à la mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société actuelle. On est dans une société vraiment de zombies, hein, donc de morts vivants. Et donc, vous savez, c'est le mot de Muret, hein, la mort qui enfin vit une vie humaine. Bah, c'est ça, je crois qu'on y est. Et donc, effectivement, le passage va être très doux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le docteur Combe, d'ailleurs, lui-même très doux. Hein, c'est un très bon praticien, enfin dans son domaine, si on accepte la proposition de départ. Et donc, tout se passe très bien. Et d'ailleurs, on nous a bien dit qu'au moment du Covid, on nous a bien dit qu'il ne fallait pas avoir peur des piqûres. Le ministre a dit ça. Il faut quand même être fou pour avoir peur d'une piqûre. Il faut vraiment être un dingue. Et bon, bah, là, il pique. Et rien qu'une piqûre. Je ne vois pas pourquoi il faudrait en faire tout un plat. Même si c'est quand même important. C'est quand même encadré. Hein. Il y a un encadrement juridique.
Bien sûr.
Comme pour tout, d'ailleurs, tout un encadrement juridique. Mais bon. Là, c'est
juridique et administratif.
Et administratif. Voilà. Voilà,
on sent d'ailleurs que le respect de la procédure est évidemment bien plus important. Et s'il fallait hiérarchiser les valeurs entre préserver la vie et signer le bon formulaire est un acte bien plus moral.
Ah oui, c'est fondamental. Oui, ça c'est. Oui, ça,
c'est d'ailleurs ce que vous présentez à un moment. Le docteur Combe a une réflexion. Parce que donc, dans le roman, il y a un passage où il est un peu perturbé. Donc ça le travaille et puis il arrive chez un énième patient voilà. Et sur le trajet il a toute une réflexion entre le soulagement d'avoir choisi médecine plutôt qu'avoir choisi le droit. C'était le choix que ses parents faisaient pour lui, la mère voulait qu'il fasse du droit, le père voulait qu'il fasse médecine, enfin voilà, c'est les deux milieux les deux carrières qui sont tolérées, on va dire, dans le milieu bourgeois. C'est ce que vous présentez dans votre roman. Et lui se dit, en fin de compte, je prends beaucoup moins de risques, moi, en étant médecin et en piquant à tour de bras, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est chaque page, un nouveau mort, ça défile dans votre roman, plutôt que d'être l'avocat qui va devoir se retrouver à discuter avec les familles, à expliquer le dilemme, le compromis, et comme vous dites, l'erreur de formulaire.
Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il sort du juge, c'est pour ça. Comme il a tué quelqu'un par erreur, donc il a un peu, il ressent un certain émoi, parce qu'il voit bien quand même qu'il a fait une bêtise. Et c'est un homme honnête, hein, ce docteur Combe. Donc, mais bon, le juge lui dit que de toute façon, c'est la faute de l'hôpital, et puis que bon, le fait d'être vivant ou mort, bon, c'est pas très clair.
Alors, je pensais aussi au passage où la femme d'un des patients intervient en disant si vous tuez mon mari, je vous tue également. Et c'est ça qui le chamboule aussi pas mal. On sent quand même que votre personnage, Ouais, il alors... a des interrogations, il... ça le travaille. Ouais. C'est... En fait, ça sort du process. J'utilise ce mot parce que vous l'utilisez justement. J'ai beaucoup aimé cette utilisation du mot process, qui pour moi est un terme d'entreprise. Vraiment, les temps modernes avec Charlie Chaplin, on fait ça à la chaîne, on a des process, ça défile sur le tapis roulant et voilà. Mais on sent qu'il a des interrogations, qu'il a un regain d'humanité, en fait, qu'il traverse régulièrement.
Ouais, alors il a effectivement quelques appels dans le livre. Notamment, à un moment donné, il voit dans un jardin public où tout est grisâtre. Un jardin public aujourd'hui, c'est vraiment un endroit de mort. Hein. Mais simplement, il voit à un moment donné un jeune homme trisomique avec son père. Et là, il y a un halo de lumière surnaturelle. Il est le seul à le voir, en fait. Et bon, ils disparaissent. Donc, il est surpris parce qu'évidemment, il n'y a plus de trisomiques. Enfin, ça n'existe plus, les trisomiques. Ils ont été exterminés. Enfin, ils sont exterminés avant la naissance aujourd'hui. Donc, il est très surpris d'en voir un. Et bon, il y a ce halo de lumière. Et là, il a un premier appel qui le trouble un peu. Il en a un deuxième, effectivement. Il y a deux, trois appels
deux,
dans
trois
le livre.
Dans le livre où ça revient.
Mais malheureusement, l'écart entre sa morale et sa pratique se réduit à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai titré le troisième chapitre « On éteint et on rallume ».
Oui.
Parce qu'en fait, c'est ça, quoi. Bon, c'est avec des ordinateurs, dans les bureaux, quand ça marche pas, le service informatique vous dit bon bah éteignez, rallumez quoi. C'est que l'ordinateur doit avoir un cas de conscience, je sais pas. Donc voilà. Et le docteur Combe, il a un cas de conscience, mais en fait il éteint et il rallume et puis ça se passe bien. Et c'est notre cas à tous en fait. On est comme ça. C'est-à-dire dès qu'on a un petit quelque chose quand même qui parce que aujourd'hui tout est monstrueux. Il suffit de sortir dans la rue, tout est monstrueux. Mais bon, c'est quand même fatigant quoi de devoir réfléchir à tout ça. Donc on y réfléchit 2 minutes, lui il réfléchit 2 minutes et puis bon bah il passe. Il arrive à revenir sur ses pieds.
Ce choix de titre, d'ailleurs, pour la dernière partie de votre livre est très intéressant parce qu'elle s'oppose, c'est dans la première partie, le docteur va chez une patiente, une dame assez âgée de mémoire, et elle dit « Ah, mais c'est gentil de vous être déplacé, docteur ?» Et la réponse, c'est « Oui, c'est bien le dernier métier qui ne sera pas industrialisé ou qui reste encore humanisé. Ouais, » Je ne sais plus le terme que vous utilisez, la citation exacte.
Je ne sais plus si c'est délocalisé ou télétravaillé.
Il y a une histoire de... en fait, il y a encore une proximité humaine, ce qui va complètement à l'encontre de l'acte en tant que tel. Et justement, ce choix de « on éteint, on rallume » pour le chapitre 3, bah, ça rejoint ce que vous disiez. En fait, c'est de l'ordinateur, c'est dénué de tout sentiment humain.
Oui, il faut lui persuader d'être très humain, hein. C'est la règle d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, les gens qui développent des pensées, une idéologie humaniste sont évidemment les plus monstrueux. Je pense que les deux sont liés d'ailleurs. Mais lui, il pense être assez humain, je pense.
Quand vous dites ceux qui développent une pensée humaniste sont les plus monstrueux, évidemment, on pense à Emmanuel Macron qui se flatte d'être un humaniste et qui nous apporte un certain nombre de lois assez monstrueuses. Pourquoi est-ce que l'humanisme serait le chemin vers la monstruosité?
Disons qu'il y a un lien psychologique. C'est-à-dire que si vous vous comportez comme un salaud tous les jours, vous pouvez retomber sur vos pieds en vous faisant photographier avec un sac de riz en Éthiopie, par exemple. Et puis avoir ça dans votre conscience tout le temps. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je pense qu'il y a un besoin, si vous êtes une ordure, d'adhérer à une idéologie, pleine de bons sentiments. Moi, j'ai toujours vu un lien, en tout cas. J'ai pas d'exception. J'ai jamais vu d'humanitaire, par exemple. Enfin, la plupart des humanitaires que j'ai rencontrés, c'est de France à l'eau. Bon. Mais peut-être qu'il y en a qui sont très sympathiques. Hein. J'attends de les rencontrer, mais... Et à l'inverse,
Un appel à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Si vous avez rencontré des humanitaires qui ne sont pas de France à l'eau, n'hésitez pas à nous en faire part.
D'ailleurs, les humanitaires, aujourd'hui, c'est étonnant, si vous regardez dans la jeunesse, dans les CV, maintenant, ils le mettent. Ils mettent « j'ai mis l'électricité dans un village africain, j'ai construit un puits ». C'est dans les CV, pour les concours, pour tout d'ailleurs, pour aller à Sciences Po par exemple, vous mettez ça sur votre CV, c'est-à-dire que vous faites ça uniquement pour le mettre sur votre CV, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une négation totale de l'évangile selon Saint Matthieu, quoi. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, quoi. C'est une négation radicale, et bon, c'est bien la montre, ça montre bien qu'ils font ça juste pour pouvoir le dire après, quoi.
Pardonnez-moi, ce que je veux dire n'a aucun rapport avec cette excellente citation que vous venez de faire des Évangiles. J'ai oublié de vous dire que, bien sûr, si vous avez envie de nous appeler pour dénoncer un humanitaire sympathique et lui reprocher d'être purement vertueux et non pas un salaud opportuniste, vous avez besoin de le faire au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, et Louise prendra vos appels. Et sinon, vous pouvez nous écrire à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, et nous lirons vos mails. Voilà, s'il ne s'agit pas d'insultes, ou si c'est surtout si les insultes sont dénuées de talent, eh bien nous lirons tous vos messages à l'antenne. Voilà, donc si vous avez envie de nous insulter, soyez talentueux. Je voudrais revenir sur cet épisode absolument épatant dans votre livre où le docteur Combes est convoqué chez un magistrat pour régler cette histoire embêtante d'erreur médicale, où il est bien établi d'ailleurs que ce n'est pas lui qui a commis une erreur, c'est on lui a donné la mauvaise fiche, on lui a indiqué le mauvais patient, le patient est allé à de patresse. Voilà. Et pour ce monsieur Lombroso, eh bien sa famille sera indemnisée en cas de condamnation de l'hôpital, ce qui signifie qu'il faudra démontrer que monsieur Lombroso ou elle-même a subi un préjudice du fait de ce traitement. On parle bien du fait que monsieur Lombroso a été euthanasié. Et voilà. Et c'est pas acquis le fait que ce soit un préjudice, car il serait vivant sinon. Oui, il serait vivant, mais cela n'enlève rien à la charge de la preuve en matière de préjudice qui reposera sur les plaignants. Mais je ne vais pas vous ennuyer sur l'évolution actuelle de la jurisprudence en la matière. Je traite du reste parfois des dossiers de patients à qui on a refusé le TFV, donc le traitement de fin de vie, et qui estiment eux aussi avoir subi un préjudice. Et ils portent plainte pour cela. Alors, être vivant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un argument à lui seul? On a vraiment l'impression que vous étiez là en train d'entendre les discours à la chambre, en fait, des partisans et des opposants à l'euthanasie.
Oui, avec toujours cette religion moderne qu'est le droit, qui surplombe tout ça, qui permet d'effacer toute conscience. Mais c'est vrai que je souhaite bien du plaisir aux magistrats dans le futur, parce qu'il va falloir qu'ils tranchent ce genre de questions. Ça va se poser de plus en plus, oui.
Alors, ça va se poser, mais avec des choses aussi tout à fait amusantes. Parce que, par exemple, lors des lectures, 150 amendements déposés pour proposer d'encadrer l'aide à mourir avec davantage de garde-fous ont été rejetés d'emblée par Éric Coquerel, le président de la commission des finances, donc député LFiste, qui a jugé que tous ces amendements, donc qui visaient à encadrer le droit à mourir, autrement dit à encadrer la pratique de ceux qui veulent euthanasier à grande échelle, entraîneraient la création ou l'aggravation d'une charge publique. Ça coûte cher, donc on va pas le mettre en place. Par exemple, il y avait quelque chose qui était fascinant, et c'est directement lié à cet épisode, vérifier que la procédure est respectée avant l'administration d'une substance létale et non pas après. Et bien, donc, le fait de vérifier que la procédure a été respectée avant, on a rejeté cet amendement. Déjà, je trouve absolument fascinant qu'un député lise la loi et dise « Tiens, au fait, on a oublié de vérifier que les choses avaient été correctement faites avant de filer la picouse et de faire en sorte d'envoyer la personne dans le néant, si elle y croit, auprès du bon Dieu, si elle y croit aussi. » Et on se dit, ah oui, c'est vrai, autant bien vérifier les choses. Voilà, on vit quand même dans une époque de mode d'emploi, d'encadrement. On ne peut pas prendre le métro sans avoir déjà vérifié énormément de choses. Là, non. Pour ce qui est de mourir, il y a une vérification, mais uniquement après.
Moi, je crois que ce sera plus facile à l'avenir de se faire piquer, de se faire euthanasier, que de fumer en bas d'un immeuble. Beaucoup plus facile. Il y aura, mais effectivement, oui, les débats sont assez amusants pour ça en ce moment. C'est mélange de juridique, de banalité du mal. Moi, j'ai vécu une génération qu'on nous a bassiné avec les crimes du nazisme, qui sont effectivement des crimes monstrueux, des crimes uniques dans l'histoire sans doute. Ce qui m'embête, c'est que on le vit aujourd'hui, quoi. C'est la banalité du mal, c'est ça. Enfin, ce qui était monstrueux chez les nazis, c'était ces bureaucrates, c'était pas tellement les militaires, c'était les bureaucrates épouvantables qu'on a arrêtés en 45. Mais on vit ça aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est étonnant. Donc je sais pas pourquoi on nous a rabâché ça. Si c'est pour, enfin, pendant toute ma jeunesse, des années 70-80, on avait ça au collège, c'était justifié, moi je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est qu'on le vit aujourd'hui, donc bon, c'est quand même étonnant, quoi.
On vit aujourd'hui, effectivement, des pur nazisme, qui proposent d'euthanasier les gens. Et avant, effectivement, on en parlait juste avant l'émission, avec le développement des diagnostics prénatales, on a décidé d'adopter une politique eugéniste qui est exactement la politique de l'État nazi, ou d'ailleurs de Winston Churchill dans les années 1910-1920, qui était un fervent eugéniste, qui avait proposé lui aussi, pas d'euthanasier les débiles mentaux, juste de les enfermer dans des camps de concentration, où néanmoins on les ferait travailler pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, et ceux qui avaient le droit de sortir étaient forcément émasculés, c'était les débiles mentaux, mais aussi un peu les ivrognes, un peu les catholiques, un peu les juifs, un peu les femmes seules, un peu les chômeurs longue durée. Ben, voilà. Mais il fallait améliorer la race, je cite Winston Churchill, que Hitler a dû lire avec profit. Et donc, on voit bien qu'il y a une tentation, en fait, de mort qui est permanente dans la société moderne.
Oui, c'est ça, oui. Je crois qu'il y a une tentation aussi de supprimer tout ce qui peut être rite de passage, transmission, parce qu'en fait, est-ce qui va se passer là avec la génération d'euthanasie, c'est aussi la suppression de l'agonie. Et l'agonie, la suppression de l'agonie, c'est... Si vous voyez, on peut le voir dans les deux sens, hein, d'ailleurs, la suppression de... Parce qu'en fait, quand vous vous faites buter, vous supprimez l'agonie pour vous, donc vous ne vivez pas cette expérience, qui me semble intéressante à vivre, après tout, c'est la dernière, bon. Mais on ne peut pas savoir ce qui se passe. Pour avoir vu des gens agoniser, des proches, par exemple, il se passe quelque chose, en tout cas. On le voit dans la dernière expression, par exemple, d'un agonisant, quand il regarde ses proches, il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il emporte au-delà, mais il se passe quelque chose. Mais surtout, vous privez pour les autres. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, un père qui meurt, c'est important pour ses enfants. Vous savez, la fameuse phrase, là, les parents seront les enfants de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils seront en état de faiblesse. Et mon agonie sera dans un état de faiblesse totale. Et donc, par exemple, pour un fils, voir son père agoniser, c'est un rite, c'est quelque chose de très important, parce que le père, c'est le commandeur. Hein, autant il y avait des pères, en tout cas. Donc, et vous le voyez dans cet état de faiblesse absolue. Et ce qui vous rappelle ce qui va vous arriver, parce qu'on sait qu'on sera réduit en poussière, on nous le rappelle à l'église, mais là c'est une expérience beaucoup plus directe, vous savez ce qui va se passer, et là il se passe des choses, pense l'agonie, ça c'est sûr, d'autres en parleront beaucoup mieux que moi, hein. Il y a des essayistes qui parlent de ça très très bien, mais je crois que la suppression de l'agonie c'est quelque chose de fondamental, peut-être qui d'ailleurs est nouveau, je crois pas que ça se soit passé dans l'histoire, ça veut dire suppression brutale quoi, comme ça. Je m'en vais, quoi. Je vais à Bruxelles, je m'en vais, enfin, non, ce sera à Paris. Là, il va manquer quelque chose. Pour ceux qui assistent le mourant, l'image de leur propre mort, et puis un rite de passage aussi, probablement. Et pour celui qui part, sans doute quelque chose de fondamental. Je ne sais pas quoi, ça, je n'ai pas encore fait l'expérience. Je vous dirai après, mais
voilà. On se retrouvera là,
voilà,
j'espère.
Voilà. Mais supprimer ça, j'en vois pas la justification. Surtout que la plupart des agonies ne sont pas extraordinairement douloureuses. Après, il y a toujours des exceptions. Hein. Moi, je ne dis pas que je n'ai pas de leçon, il y a sûrement des exceptions. Mais dans la majorité des cas, l'agonie n'est pas très, très douloureuse. Et c'est dommage. Alors, j'ai envie de dire, essayez, vous verrez, quoi. Mais à ceux qui sont tentés par l'euthanasie.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que donc, ces derniers instants partagés, voilà, si on a la bonne fortune d'être accompagné, ou même d'ailleurs dans ces unités de soins palliatifs où les personnes. Meurt seule, mais en ayant le sentiment d'avoir été accompagnée, quand bien même la famille n'est pas là au pied du lit, on pourrait vous dire oui, mais c'est une mort indigne, car le corps est totalement affaibli, l'esprit est parfois absent, les râles de douleur pendant 3 jours est un spectacle insupportable. Vous intitulez votre roman « Dans la dignité ». Où est la dignité dans l'agonie ? C'est une question piège. Hein. Évidemment, vous avez raison. Je préfère vous le dire tout de suite.
Oui, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Je pense que si vous êtes dans la faiblesse absolue de quelqu'un qui a donné, par exemple, un père pour un fils, je crois que la générosité ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à recevoir. C'est important. C'est important parce que c'est déjà arrivé que des gens qui ont donné toute leur vie, au moment d'agoniser, justement, réclament la piqûre. C'est déjà arrivé. Mais je pense que c'est un manque de générosité. Il faut aussi être capable de recevoir. C'est les deux. C'est vraiment les deux. Parce que sinon, d'ailleurs, ce serait impossible. Il n'y aurait pas d'humanité possible si tout le monde donnait, d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon. Et donc, qu'est-ce qui peut être de plus digne que ce moment final où vous êtes dans un état de faiblesse absolue, donc vous dépendez en général de votre progéniture. En général, ça peut être d'autres cas, mais... oui, je vois pas ce qui peut être de plus digne. C'est vrai que là, oui, c'est d'une dignité absolue, d'ailleurs. J'ai pas titré ça pour ça, moi j'ai titré ça évidemment par ironie.
Non, pour, voilà, j'entends bien.
Pour les partisans, pour ceux qui nous disent que c'est digne. Voilà. mais en fait, oui, maintenant, mais c'est vrai qu'en en discutant, j'y ai pas pensé, mais en fait, la mort normale, la bonne mort, le problème, c'est deux notions différentes chez les Grecs, c'était la mort au combat. Mais enfin, pour les chrétiens, c'est la bonne mort qui a pour patron Saint Joseph. Elle est très digne, oui, en effet. Oui.
Mais justement, cette question de la dignité, c'est un thème qui est, je pense, aujourd'hui abandonné de manière générale dans notre société. Parce que là, on prend l'exemple de la dignité dans la mort, de la fragilité, de la petitesse de la fin de vie. Mais de manière générale, dans notre société, il y a une énorme hypocrisie sur la dignité. Si on fait un écart de sujet, mais... Moi, je suis scandalisée quand on voit les vagues migratoires arriver, les conditions dans lesquelles sont parqués, j'ai pas d'autres mots, aux portes de Paris, pour donner cet exemple, des hommes la plupart du temps. Mais voilà, il y a une absence totale de notion de la dignité, mais on a des dirigeants politiques qui prennent cet exemple sous couvert d'humanisme, sous couvert d'humanitaire. Donc en fait, cette notion de dignité, elle est évidemment inexistante sur la question de la fin de vie, puisqu'elle n'existe plus de manière générale dehors d'une société, si notre société était encore pleinement chrétienne, si je puis dire.
Oui, là c'est un bon exemple, effectivement, l'immigration, c'est-à-dire que les immigrationnistes en fait sont d'un racisme incroyable, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les Africains ne peuvent être heureux qu'en France ou en Europe, avec les Blancs, quoi. C'est d'un racisme monstrueux, et ils pensent, ils ont une vision de l'Afrique qui est vraiment quelque chose de... comme si c'était un enfer, bon. Et donc, c'est non seulement c'est pas digne, mais c'est d'un colonialisme absolu, et d'un racisme total, en fait. Hein. C'est-à-dire, on considère que les Africains peuvent pas vivre en Afrique, quoi. C'est pas possible, il faut qu'ils aient des Blancs, sinon... c'est une pensée, mais c'est qui n'a jamais changé, hein, depuis la Troisième République, hein, la Troisième République a été initiée le colonialisme, enfin, en tout cas, elle a poursuivi entre 1875 et 1890, et cette pensée coloniale continue à... C'est pas notre sujet, mais c'est la même chose, effectivement. Oui. Il n'y a rien de digne là-dedans.
Dans votre roman, vous essayez à chaque fois de raconter donc, ces différentes morts données, acceptées, réclamées, de la façon la plus plate possible. Enfin, non pas que votre écriture soit plate, mais en fait, il n'y a pas de grande souffrance, à part cette femme qui est prête à tuer le médecin, et d'ailleurs qui lui-même en est choqué.
On est tout chamboulé.
Mais qui, heureusement, retrouve assez vite son assise. Et toutes les comparaisons sont très expressément choisies pour faire en sorte que ce soit dérisoire. S'il se savait qu'on risquait à l'hôpital une piqûre mortelle alors qu'on était venu pour se faire enlever l'appendice ou recoudre une blessure de jardinage, les patients viendraient le cœur moins léger ou ne viendraient plus. Et c'était parfaitement humain malgré l'insignifiance du risque sur le plan statistique. Mais quel métier difficile! Le gérant de pizzeria qui met des capres au lieu des olives demandées a toujours la ressource d'accompagner ses excuses d'une offre de pizza gratuite. Cette possibilité était dans la médecine de fin de vie exclue. Voilà. C'est un travail littéraire. Vous êtes vraiment allé chercher les comparaisons à la fois les plus saugrenues et les plus, je ne peux pas dire, pas vulgaires, les plus quotidiennes, les moins tragiques.
Mais je crois que le mot que vous avez cité, c'est vrai que c'est un mot qui m'est revenu, je crois, en écrivant, c'est le mot de dérisoire. Je crois qu'on n'échappera pas au dérisoire. On n'échappe pas au dérisoire aujourd'hui. C'est-à-dire que... Même à la fin, par exemple, évidemment, il a un confrère qui vient pour buter ce qu'il croit être sa fille. Mais même ça, ça se produira pas. C'est-à-dire que le mot dérisoire est juste. J'aime beaucoup, moi, d'ailleurs, lire des livres qui traitent du dérisoire. Par exemple, il y a un livre qui était très réussi, qui était une bande dessinée de Fab Caro, qui s'appelait Zai 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 Zai.
Je vois.
Et qui, justement, est fondée uniquement sur l'idée de dérisoire. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, où sa punition, c'est juste de chanter un karaoké, enfin, de chanter une chanson de Je me suis impliqué, bref. Et oui, c'est, je pense que c'est un bon thème littéraire, en tout cas, le dérisoire.
C'est un thème récurrent, d'ailleurs, parce que, pour donner une autre citation, moi, qui m'a fait beaucoup rire, c'est... Donc, on est dans la deuxième partie du livre. On a un couple, lui, donc, est en train de choisir la formule idéale pour mourir et donc pour être euthanasié. Donc, pas possible en France, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison pour que lui reçoive sa piqûre. Donc, il y a une discussion. Il rentre de son rendez-vous médical. Il y a toute une discussion avec le couple. Et puis sa femme, qui a presque une petite émotion, mais non, elle reste raisonnable, elle lui dit... Non, c'est lui qui dit « Ça te dit ce soir un petit épisode de la série, là, sur Netflix, sur les flics à Los Angeles ?» Et elle répond « Prime Video. Elle est sur Prime Video. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche si tu veux voir au moins la fin de la saison. » Moi, j'ai trouvé... La conversation se termine là-dessus. J'ai trouvé ça absolument génial de refaire sortir une scène du quotidien complètement banale, dérisoire, comme dirait Richard. Comme dirait si justement Richard de 16, face à la gravité du sujet. Et vous mettez ça en parallèle, dans la balance, en permanence. Et moi, je me suis posé cette question, justement. Les députés qui ont pondu tout un tas d'amendements et qui continuent de discuter de notre vie ou de mort, en fin de compte, est-ce qu'ils ont mis ça dans la balance? Est-ce qu'ils ont mis d'un côté l'euthanasie et d'un autre côté la platitude, la banalité de la société?
Ouais, mais je crois que c'est le problème de réifier les choses, en fait, de transformer l'humain en objet. C'était le problème qu'on avait avec la peine de mort, par exemple, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de la peine de mort. Les gens qui y assistaient, quand ils étaient favorables, étaient quand même impressionnés. Par exemple, quand on a exécuté Brasillac, ils en y racontent que... donc, ils exécutent Brasillac, très bien, et ils s'en vont. Et là, il y a un magistrat qui regarde sa montre et qui dit « On a bien marché, on est en avance. » Et ce qui est monstrueux, parce que, voilà, bon, qu'on élimine des ennemis politiques, c'est normal, mais ça reste un homme, quand même. On peut éliminer un ennemi politique sans... Voilà, ou un criminel, d'ailleurs, peu importe, mais sans le transformer en chose. Dans la peine de mort, il y a ce problème de la réification, qui est un argument contre, disons. Et là, c'est le problème de l'euthanasie aujourd'hui, c'est que on réifie, quoi. Enfin, on transforme l'homme en chose, quoi. C'est-à-dire, comme c'est une chose, bah, effectivement, il faut bien prévoir le droit de manière très comme on organise un salon, quoi. Donc, c'est ça qui est monstrueux. Mais le problème, c'est qu'avant, on s'en apercevait. Ça, maintenant, j'ai l'impression que je sais pas, on parle de ça.
C'est dans l'air du temps.
Oui, oui.
Alors, en nous présentant cette euthanasie, non pas comme une société dystopique, parce que ça aussi, vous auriez pu faire le choix de dire, voilà, j'écris un vrai roman de science-fiction à la française, c'est-à-dire des dystopies options admirables, comme on était capable d'en écrire dans les années 70, avec des sociétés ultra normées, ou au contraire totalement ensauvagées. Non, là, vous prenez 2025-2026, vous les poussez juste d'un cran, et dire, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de technologie hyper innovante. C'est la France aujourd'hui, comme si l'euthanasie avait été votée il y a 15 ou 20 ans, et vous montrez quelque chose qui est complètement rentré dans le quotidien, avec la SNCF qui se rend compte qu'il y a un marché d'euthanasie, parce qu'on peut se faire plus facilement euthanasie en Belgique qu'en France, que même qu'on peut plus facilement aller avorter en Espagne ou faire une PMA en Espagne qu'en France pour le moment. Et donc, elle décide de mettre en place un package belge avec le voyage et le voyage retour, qui évidemment les trains sont moins remplis au retour qu'à l'aller. Et donc elle imagine, oui, mais alors vous, pour un modique supplément, vous pouvez avoir un endroit où ranger votre urne. Et donc là, on sent les génies marketing qui vous animent. Je pense que la SNCF devrait vous appeler parce que vous êtes capable de montrer comment le marché s'empare de la mort.
Ben oui, d'autant plus que... Oui, c'est vrai qu'il y a un problème, il n'y a pas d'aller-retour, quoi. Alors, ceci dit, je précise dans mon livre, en fait, je pense que ça va se régler ça peut se régler en partie du fait que les Belges, il y a des Belges aussi qui ne vont pas se faire buter et qui, eux, prendront le train Bruxelles-Paris pour éviter de se faire piquer. Donc, il y aura des mouvements dans les deux sens. Parce qu'il y aura quand même des gens, je pense, qui ne vont pas se faire piquer. Enfin, j'espère. Donc, il y aura des mouvements qui seront difficilement prévisibles. Ce que je sais, par contre, c'est que le livre est déjà dépassé, je pense. Il va être dépassé très vite. Par exemple...
Achetez-le très vite,
chers auditeurs. Voilà, parce que, par exemple, quand la femme refuse que son mari se fasse buter, donc il dit au médecin, si vous tuez mon mari, je vous tue aussi. Donc, il s'en va. En fait, j'ai pas pensé, au moment de l'écrire, à ce qu'ont inventé, je crois, les députés, c'est-à-dire qu'ils ont même inventé un délit d'entrave.
Un délit d'entrave au droit à mourir, 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement.
Voilà, donc par exemple, cette épouse, là, dans mon roman, en fait, elle pourrait être, je pense, sanctionnée.
Aujourd'hui, oui. Enfin, si la loi passe.
Donc,
oui.
Le délit d'entrave à l'euthanasie, ça, j'avoue que c'est une trouvaille. Vous voyez, c'est extraordinaire.
Et le délit d'entrave, d'ailleurs, va très loin dans cet amendement, puisque c'est d'expliquer la conséquence de l'euthanasie. dire que la conséquence de l'euthanasie, c'est la mort, c'est un délit d'entrave. Mm. Et d'ailleurs, il y avait eu un exemple, je ne sais plus quel député avait fait pendant la deuxième lecture, avait fait cet exemple justement, il avait posé la question qu'est-ce qu'un délit d'entrave, quelle est la conséquence de l'euthanasie, et c'était des députés de gauche qui avaient répondu à la mort, voilà messieurs, vous venez de faire un délit d'entrave. Donc c'est pour montrer à quel point
délit d'entrave à l'aide à mourir est notamment constitué, citation, en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l'aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l'aide à mourir ou de l'entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires. Des pressions morales ou psychologiques. Elle ne prévoit aucune exemption au bénéfice des proches. Donc c'est-à-dire un époux, une épouse, un fils, une mère qui dirait à son enfant, à son conjoint, à son parent, ne meurs pas, ça va me rendre triste. C'est une pression morale ou psychologique et c'est puni par la loi.
C'est ça. Et ouais, donc je pense que, en tout cas, je pense que ce livre va être dépassé. Moi, chaque fois que je publie des romans comme ça, de très légère anticipation, c'est dépassé très vite. J'ai publié longtemps un roman sur Paris avec sur les Vélib, quoi. Je les faisais mourir, heureusement, mais en fait, ça a été dépassé très vite, quoi. Après, on a vu apparaître les trottinettes, enfin, puis plein d'autres engins de mort. Donc, je pense que ça va aller très vite. C'est très difficile de suivre. En fait, le monde déconne à un tel point que ça devient difficile de le suivre. Il faut vraiment courir vite. On peut dire que c'est un monde plein d'imagination. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a très très peu de romans sur le monde actuel. Les romans que je vois, c'est des romans sur le passé, des épisodes du passé, ils peuvent être très intéressants, mais enfin, le monde actuel est absolument hallucinant.
Enfin, je veux dire, il faut que vous lisiez Alexis Le Gaillet, qui est publié aux éditions de La Mouette de Minerve, et qui ne fait que des romans sur le temps présent, sont à chaque fois de... Alors, dans un côté moins dérisoire et plus bouffon que vous, c'est-à-dire, il pousse à l'extrême les situations actuelles, et à chaque fois, les prémices sont extrêmement solides, et ensuite, voilà, on tombe dans le délire. Alors que vous, justement, vous restez toujours dans la normalité. On sent malgré tout que vous êtes effrayé, évidemment, il suffit de vous entendre, c'est un avenir dont vous ne voulez pas, et pourtant, vous vous attachez à faire en sorte que rien ne dépasse. C'est presque une contradiction, en fait. C'est un livre presque résigné, d'une certaine manière.
Un peu résigné, oui. Puis aussi, peut-être, en essayant de montrer les choses telles qu'elles sont, en évitant la bouffonnerie, même s'il y a de l'ironie, je me dis que peut-être des personnes vont lire et vont avoir une prise de conscience. Des gens qui... Parce que je connais beaucoup de gens qui sont intéressés par ce processus. Ils disent « Ah, bah oui, quand j'aurai 80... Enfin, bon,
pas envie d'être un poids.
Voilà, toutes ces conneries.
Vous avez d'ailleurs un personnage comme ça.
Qui lui se fait buter parce qu'il est un poids pour sa propre mère. Enfin, bref. Oui,
qui lui avait dit qu'il pouvait rester quelques... On n'était pas à quelques semaines près.
Bon, enfin bon. Voilà, <c'est... rire> bref, ouais, donc, oui, c'est ça le... Oui, ça me fait penser ça, cette histoire de date, c'est que j'ai vu une vidéo sur des gens qui se faisaient... Un monsieur qui allait se faire piquer en Belgique. Et au moment, à la fin, donc, il y a le médecin qui lui dit, bon... c'est une vraie vidéo, hein, c'est pas une blague. Enfin, je pense... Et le médecin lui dit, bon, bah... Ouais, mardi ou vendredi?
D'où l'exemple que vous prenez dans...
Et le gars dit, je sais pas ce qu'il répond, d'ailleurs. Je sais pas s'il prend les 3 jours de plus. Enfin, voilà, bon, tout ça. Ces exemples-là, normalement, en fait, on devrait... Là, il devrait y avoir une réaction, quand même, en se disant, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un week-end à Deauville ou est-ce qu'on parle de la vie et de la mort?
Oui.
Et donc, si ça peut, peut-être chez certaines personnes, peut-être peuvent se dire, mais en fait, c'est effrayant. Bon, je sais pas. Et puis aussi, je sais pas.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup de personnages dans votre roman sont très pragmatiques, très pratiques. Justement, il y a une scène de... Donc, le docteur Combes doit prendre rendez-vous... pour une de ses patientes, il lui propose justement mercredi ou jeudi, et elle réfléchit et dit « Ah ben non, mercredi c'est pas possible, j'ai une livraison. Bon, jeudi alors. » Et vraiment comme si, il y a le colis Amazon qui va arriver mercredi, ce serait bête de le louper, je vais mourir le lendemain, ça ira très bien comme ça. Et ils ont un côté encore hyper pragmatique dans des banalités du quotidien, j'ai l'impression qu'on y revient, mais c'est quand même ce qui ressort beaucoup dans votre roman. Mais à côté de ça, voilà, eux n'ont pas, ne semblent pas avoir de prise de conscience. Le docteur, lui, régulièrement, a des petits sursauts, mais eux, non, ça y est, c'est déjà acté.
Il n'y a plus de hiérarchie, en fait. Il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de hiérarchie. Donc la mort n'est pas un problème plus important qu'effectivement la livraison Amazon, quoi. Enfin, c'est une succession de petits problèmes que probablement l'intelligence artificielle va régler, d'ailleurs, avec des applications. Enfin, voilà, c'est une vie comme ça où, oui, l'euthanasie sera une... oui, un des événements de... Pas majeur, en fait, pas tellement majeur. Important, quand même.
Et est-ce que, dans votre roman, il y a un donc, personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, mais Charlotte, qui est la fille du professeur, qui, elle, présente l'euthanasie comme une énorme inégalité sociétale, puisque pour elle, c'est juste une question bourgeoise. Les personnes de milieux plus populaires, moins aisées financières, ne peuvent pas se permettre ça.
Oui, on a vu ça pour le Covid. À un moment donné, il y a des gens, des humanistes qui ont dit « Mais quand même, c'est incroyable, on a plein d'immigrés clandestins, ils sont pas dans les radars, sous les radars, c'est quand même injuste, quoi. » Et pareil pour l'Afrique, d'ailleurs. Oui, ils ont pas le vaccin Covid, les pauvres, quoi. Alors, bon, ils n'étaient pas du tout enthousiastes en Afrique pour eux.
Donc, oui, de fait, ils n'étaient pas très réceptifs.
Bon, voilà, donc, mais bon, bah, c'est cette même idée, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça pour tout, quoi, y compris pour l'euthanasie, effectivement. La lecture, parce que la lecture de l'inégalité, qui est la lecture qui est utilisée pour absolument tout, de manière absurde, effectivement, elle est valable aussi pour l'euthanasie. Après tout, c'est vrai que c'est dommage quand même... C'est dommage que ce soit que les riches qui en profitent. Ça, c'est quand même regrettable. Il faut porter la bonne parole aussi. Ouais, ouais.
Je remercie François Marchand qui a écrit ce livre Dans la dignité et qui en parle avec talent et une certaine résignation. On pourrait croire qu'il est d'accord, pas du tout. Ce livre est non pas un pamphlet, mais une charge subtile contre l'euthanasie. J'en profite, ça n'a aucun rapport, pour vous expliquer que, évidemment, si vous avez envie d'entendre un débat pendant une heure et demie sur l'euthanasie, ben, mieux vaut venir, deux heures d'ailleurs, mieux vaut venir sur Radio Courtoisie qu'attendre que le service public le mette en place. Et pour que Radio Courtoisie puisse organiser ce genre de débat, ce genre de rencontre, puisque nous allons recevoir tout à l'heure Isor Delay et le professeur Cosset, eh bien, il faut que vous puissiez nous soutenir. Et ça tombe bien, on a tous les outils pour que vous puissiez nous soutenir. Il suffit de nous écrire au 61 Boulevard Murat, 75 016, en nous envoyant un chèque, ou vous allez tranquillement sur internet soutenir.rc.fr. Voilà, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine. Merci beaucoup. Vous êtes quelques milliers à nous soutenir. N'hésitez pas à faire en sorte que quelques milliers se transforment peu à peu en quelques centaines de milliers. Et voilà, et tout ira bien pour tout le monde. Même pour vous, 2 euros, ça suffit. Merci beaucoup. François Marchand, restez avec nous si vous voulez bien, et on va accueillir le professeur Cosset qui a signé une tribune dans Le Point qui était absolument épatante. Et donc il va arriver il est presque en ligne, c'est fait. Bonjour monsieur le professeur.
Oui, vous m'entendez?
Oui, très bien. Alors, vous avez écrit un euthanasiste, un métier d'avenir avec un point d'exclamation qui est paru dans le magazine Le Point, et je ne résiste pas au plaisir de lire quelques phrases de cette tribune. Jeune médecin, vous qui hésitez encore pour choisir votre spécialité, ne tergiversez plus, la nouvelle loi sur la fin de vie en passe d'être adoptée vous offre une portée unique, devenez euthanasiste. La nouvelle législation va en effet vous permettre de cumuler des avantages, un recrutement de patients inépuisable. Vos études de médecine vous ont bien appris que la vie est la seule maladie mortelle à 100%. Par ailleurs, paraphrasant à peine Knock, il est évident que tout homme bien portant est un moribond qui s'ignore. Dans de telles conditions, le recrutement de votre patientèle ne vous posera jamais aucun problème. Deuxième avantage, une formation rapide et dénuée de complexité. Aucun diplôme n'est exigé. Tous vos collègues médecins, blanchis sous le harnais, vous confirmeront qu'il est de loin beaucoup plus facile de tuer un patient que de le soulager, et a fortiori de le guérir d'une pathologie plus ou moins sévère. Vous aurez des sponsors particulièrement actifs. Les associations pour mourir dans la dignité ont clairement fait preuve de l'activisme et de l'efficacité de leur réseau. Un soutien psychologique, outre les membres des associations déjà citées, des collègues belges euthanasistes qui avaient déjà été invités à présenter leur expérience devant notre convention citoyenne nationale, sont prêts à revenir témoigner devant vous qu'au début ça empêche de dormir, mais qu'après on s'habitue. Voilà. Et ça, c'est en fait une véritable citation, je crois.
Tout à fait. C'est Claire Fourcade, avec qui je suis aussi en contact régulier, qui est la présidente de la Société française des soins palliatifs, qui avait effectivement rappelé que lors des auditions de certains collègues belges, bien évidemment militants de l'euthanasie, devant la Convention citoyenne, et à qui on demandait, mais quand même, ça doit être un peu difficile. Et effectivement, là, si le collègue a répondu oui, au début, ça empêche un peu de dormir, et puis après, ben, ma foi, on s'habitue. Je dois dire que là, ça m'a un petit peu, enfin même beaucoup choqué, parce que j'ai eu à le faire, même avant la loi Claeys-Leonetti de 2016, j'ai eu à le faire dans mes plus de 50 ans d'expérience de la cancérologie. Eh ben, je suis désolé, moi je m'habitue pas. Même si je suis obligé de temps en temps de passer par la sédation profonde et continue qui est maintenant possible grâce à la loi de 2016, mais je m'habitue toujours pas, et ces épisodes me restent gravés de façon très négative et assez épouvantable dans ma mémoire.
Je rappelle que donc vous êtes le professeur Jean-Marc Hosset, oncologue, radiothérapeute, ancien chef de département d'oncologie radiothérapie de l'Institut Curie, autrement dit, des maladies longues, des maladies douloureuses, des maladies chroniques, des patients dans un état pénible, vous en avez vu vraiment, comment dire, une cohorte complète.
Oui, ben ça c'est mon métier depuis maintenant plus de 50 ans, donc j'ai fait toute ma carrière au Centre anticancéreux de Villejuif, puis à l'Institut Curie, puis je continue maintenant dans le privé. Donc effectivement, par définition, le cancer reste une maladie grave. Bon, c'est un peu actuellement la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Alors, elle est un peu plus pleine qu'avant, c'est-à-dire que là, actuellement, on guérit effectivement un peu plus de 50% des malades. Il reste la bouteille presque à moitié vide, des patients qu'on perd, et notre honneur, c'est de gérer effectivement leur fin de vie assez souvent. Alors là maintenant, on peut être aidé aux merveilles, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans quand j'ai commencé mon internat, par les collègues qui de soins palliatifs qui font un travail absolument remarquable, mais qui, comme on le sait, sont dramatiquement peu, avec un manque de soins palliatifs qui est absolument scandaleux dans notre pays. Et on rejoint un petit peu d'ailleurs la problématique de l'euthanasie, la fin de vie et autres, et de la sédation profonde. S'il y avait manifestement suffisamment de soins palliatifs en France, ça se poserait, alors je dis pas que le problème serait réglé, mais ça se poserait beaucoup moins. Il a été dit et redit dans toutes les discussions à l'Assemblée nationale, au Sénat et autres, que effectivement, quand effectivement dans les services vraiment de soins palliatifs, il y a assez peu de demandes d'aide à mourir. Bon, il y en a encore quelques-unes, Claire Fourcade le reconnaissait, mais c'est très rare, tout simplement parce que bon, si on soulage les gens à la fois de leur douleur physique et de leur souffrance psychologique, on a beaucoup moins de demandes d'aide à mourir, comme on dit maintenant dans la nouvelle loi.
Cette nouvelle loi, même, on en parlait tout à l'heure avec François Marchand, prévoit un délit d'entrave à l'aide à mourir. Donc, on se demande dans quelle mesure le fait de proposer des soins palliatifs ne va pas tomber d'ailleurs sous le coup de la loi et d'expliquer que on n'est pas obligé de mourir tout de suite. Vous pouvez prendre le temps d'aller dans une unité spécialisée, n'est pas considéré comme une barrière, un obstacle à la dignité de mourir.
Alors ça, ce délit d'entrave, moi je dois dire que là, ça me laisse absolument perplexe. D'abord, je pense que ça va supprimer la profession de psychiatre, puisque effectivement, par définition, et puis la profession même de médecin tout court, si les gens viennent pour des problèmes, alors pas du tout de souffrance physique, mais par exemple de souffrance psychologique, puisque vous avez vu qu'il y a une intrication dans les discussions et on mélange souvent souffrance physique et souffrance psychologique, alors tantôt c'est dans la loi, tantôt c'est repoussé dans une commission, tantôt ça revient dans la loi, ça devient difficilement compréhensible, mais effectivement ce délit d'entrave, c'est-à-dire que le médecin psychiatre ou autre, qui va dire « Écoutez, monsieur, bon, d'accord, je comprends, vous êtes très dépressif, c'est épouvantable, vous êtes dans une situation difficile, je comprends que vous ayez des idées suicidaires et autres, mais enfin, bon, reprenez-vous, on va vous aider, on va vous aider psychologiquement, peut-être vous aider un petit peu avec quelques médicaments. » Eh bien, donc ce médecin-là va se retrouver effectivement dans ce délit d'entrave avec des sanctions qui sont, vous venez de le rappeler, de 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, mais c'est ahurissant. Enfin, ça me semble contre-productif et puis à l'inverse de notre rôle de médecin.
Alors, je profite, mais merci évidemment de ce témoignage. Je profite de cette petite pause pour lire quelques messages des auditeurs. Cher monsieur, nous ne sommes pas sur France Inter que d'anglicisme. Alors, si c'est moi qui les ai commis, pardon.
C'est un peu voilà. Moi, je pense aussi.
Voilà, si c'est la faute des autres, je les châtirai. J'en prends l'engagement. Merci pour cette émission et le choix de votre invité. Je crois qu'il s'agissait de vous. J'ai connu Ronnie Broman, pour qui j'ai un profond respect. Et enfin, la mort est connue par les EMI, les expériences de mort imminente. Lire l'expérience de la mort et inviter Monseigneur Michel Aupetit, Bernard Tellier, bien sûr, on essaiera. Michel Aupetit, je l'avais déjà reçu il y a quelques mois. Parler dignité, c'est comme l'agneau de la femme, se justifier face au loup, image du pervers narcissique. Que pensez-vous, professeur Cosset, de la dignité qui est mise en avant par ceux qui réclament l'euthanasie? Parce qu'évidemment, on va décider dans cette émission de ne pas parler de droit à mourir, de loi sur la fin de vie. On va nommer les choses par leur nom, on va employer le mot euthanasie, qui d'ailleurs en soi n'est pas un terme rejeté par ceux qui proposent le droit à mourir, mais juste ils expliquent que comme ce sont les nazis qui ont beaucoup employé le mot euthanasie, ça les gêne de l'employer eux-mêmes. Voilà, donc manque de peau, les nazis sont arrivés avant eux, donc ça les gêne un peu. Donc que pensez-vous de cette notion de dignité?
Alors, dignité, j'ai même essayé d'écrire un peu dessus, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, comme j'avais lu avec beaucoup d'intérêt l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et je veux dire, j'avais trouvé une phrase qu'avait dit le Conseil d'éthique, qui m'allait assez bien, et qui disait que le terme est piégeux, parce qu'il est à la fois très à la mode et très confus. Et ce concept fait aujourd'hui l'objet plus d'une invocation que d'une définition, d'une instrumentalisation plus que d'une compréhension. Et je veux dire qu'effectivement, il a été un peu instrumentalisé parce qu'on parle largement de mourir dans la dignité. Bien évidemment, tout le monde veut mourir dans la dignité. J'ai un peu recherché, un peu étudié la question. J'ai vu aucun chantre, aucun livre, aucune tribune sur mourir dans l'indignité. Ça n'existe pas. Bon. Donc, et en fait, le Conseil d'éthique disait que le dilemme éthique qui caractérise la complexité des situations de fin de vie ne porte pas sur la question de la dignité. La dignité, en fait, on est tous dignes. C'est intrinsèque à l'être. On peut en perdre le sentiment de sa dignité ou de la dignité de quelqu'un d'autre. Mais la dignité, c'est effectivement assez piégeux, et je pense que c'était un petit peu trop instrumentalisé. Bon, c'est sûr que tout le monde veut rester digne jusqu'à la fin, et si possible, tout le monde veut mourir dans la dignité. Après, il y a les moyens, et les moyens d'y arriver.
Alors, François Marchand, donc justement, votre livre s'appelle « Dans la dignité », aux éditions Buchet-Chastel. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, monsieur le professeur. On a échangé par téléphone et par SMS. Il y avait une course incroyable qui était menée par vous et votre femme pour trouver la librairie où vous pourriez l'acheter.
Je l'ai lu cette nuit. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était parti pris de se retrouver dans une dystopie courte, enfin une dystopie brève, qui peut arriver très vite, de banalisation de l'euthanasie, qui rejoint effectivement un petit peu mes inquiétudes à travers ma tribune. Mais j'ai trouvé ça très bien, et surtout très crédible, parce que c'est il y a une très belle écriture, bon, excusez-moi, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est traité. Mais effectivement, la dignité là-dedans, effectivement, on s'aperçoit que là, quand même, on la perd un petit peu de vue de temps en temps. Bah, peut-être parce que justement, on a été un petit peu trop loin sur certaines choses, sur certaines décisions.
François Marchand, donc ce terme dignité, vous l'assumez, comme dirait Manuel Valls?
Oui, bah en fait, on reprend le terme de l'ennemi, quoi. Hein. Il nous bassine avec ça de manière extravagante. Donc, bon, moi, dans mon esprit, c'est purement ironique. Hein. C'est purement ironique. Alors, je suis content que le professeur ait aimé mon livre parce que, en fait, je traite aussi parfois de questions.
J'ai fait lire votre tribune à François Marchand,
ouais.
Monsieur le professeur.
Oui, que j'ai trouvé extraordinaire. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on s'est concerté, quoi.
Pas du tout.
Parce que c'est exactement le même esprit, en fait. C'est-à-dire pousser la logique, la logique des partisans de l'euthanasie jusqu'à l'absurde, quoi. Voilà. Mais dans mon bouquin, je traite un peu de sujets médicaux, donc c'est vrai que j'espère que j'ai pas commis d'impair sur le plan médical, non
Non, je sais
pas. Il y a pas d'erreur.
Rien qui m'est choqué.
Oui, y a rien qui vous a choqué. Bon,
oui, et puis en plus, euthanasie, visiblement, c'est une profession assez simple. Malgré tout, voilà, il suffit juste de savoir faire une piqûre et c'est réglé.
Alors, pas tout à fait simplement la piqûre. Et d'ailleurs, M. Marchand parle des capsules à l'azote. Mais comme il le sait probablement, ça a été expérimenté. Hein. Il y a un sarcophage à l'azote, il y a une espèce de boîte imprimée en 3D que vous rentrez dedans, vous fermez le couvercle et là-dessus, vous lisez « Si vous voulez mourir, appuyez sur le bouton ». Et vous appuyez sur le bouton, ça vous envoie de l'azote dans la capsule, qui s'appelle la capsule sarco. Alors, ne voyez pas, c'est pour sarcophage, hein, bien évidemment.
Bien sûr.
Et vous, effectivement, vous... Alors, ça a été expérimenté. Là, j'ai vu qu'effectivement, c'est en septembre 2024, il y a une Américaine qui s'est fait euthanasier, donc en Suisse, avec cette technique d'azote. Et manifestement, l'inventeur en attendait beaucoup. Peut-être qu'il voulait mettre ça en accès libre dans les supermarchés avec paiement par carte de crédit. Ça, on rejoint un petit peu ce que vous parliez tout à l'heure, le business qui peut se mettre en place si on a quelques déviances un peu inquiétantes.
Mais j'en suis persuadé, je pense, cette spécialité de médecin de fin de vie, enfin d'euthanasiste, comme vous dites. Hein. Moi, j'ai mis médecin de fin de vie, moi, c'est pareil, parce que je voulais utiliser un euphémisme. À un grand avenir, je pense qu'il y aura des évolutions. Vous voyez, par exemple, regardez, les infectiologues. Par exemple, le VIH est vaincu depuis 20 ans. On a des trithérapies qui marchent très bien, qui sont génériquées. Pourtant, on voit arriver des nouvelles trithérapies. Gilead commercialise le Biktarvy, qui coûte un bras, qui n'a aucune valeur ajoutée par rapport au reste. Mais les infectiologues sont ravis, ils peuvent faire des colloques, des articles. Vous voyez, ils ne peuvent pas se résoudre à la fin de leur discipline, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, et puis en cas de Covid, ils vont sur les plateaux de télévision nous asséner des sottises. Et là, je pense que pour la fin de vie, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il y aura des évolutions, on essaiera de trouver des nouveaux produits, des nouvelles façons de servir le patient. Et oui, je suis persuadé que ça va être de plus en plus compliqué. Il y aura des colloques, il y aura des... et puis bon, les labos vont se mettre là-dessus. Quoi, parce que bon, là le Covid, j'ai l'impression que c'est un petit peu en baisse. Ça me paraît très bien. Moi, je suis persuadé, oui, que ça va être une de disciplines du feu de Dieu. Là, ça va être fantastique,
monsieur le professeur, ou professeur Cosset. Je sais pas si on doit vous appeler monsieur le professeur ou dire professeur Cosset en fait.
Bon, d'abord, j'ai passé 65 ans, en définitive, il y a des gens qui disent que j'ai plus le droit au titre de professeur. Alors bon, là, vous pouvez...
On est hyper formel, on est hyper obsolète. On adore les comportements dépassés, donc permettez-moi de vous donner du monsieur le professeur.
C'est gentil.
Monsieur le professeur, donc cette tribune que vous signez, donc voilà, devenez euthanasiste, on sent que c'est 50 ans d'exercice de la médecine avec des patients qui étaient parfois effectivement dans des souffrances si aiguës que vous avez décidé d'appliquer la sédation profonde prévue par la loi Leonetti. Vous la signez parce que vous avez l'impression que les médecins ont abandonné toute éthique médicale et qu'ils ne se souviennent plus du serment d'Hippocrate auquel vous faites allusion aussi, François Marchand, dans votre roman, voilà, sur le fait de ne pas administrer de poison, sur le fait de ne pas administrer la mort, ou c'est une tribune donc qui s'adresse au corps médical, qui s'adresse à l'ensemble des Français, qui s'adresse aux politiques.
Bon, peut-être à tout le monde, mais enfin, je ne suis pas si ambitieux que ça, mais effectivement, je dois dire que il se trouve que j'ai pas mal travaillé, effectivement, j'ai essayé de suivre, et c'est pas toujours facile, les multiples péripéties du cheminement de cette loi, avec des allers-retours, des suppressions, des rajouts, et je ne pouvais que m'y intéresser, et... petit à petit, j'ai rejoint un peu mes collègues, qui étaient d'ailleurs, les collègues, les soignants en général, sont pas trop contents, n'ont pas été trop entendus, ni par la convention citoyenne, ni par certains députés et autres. Et j'ai eu surtout peur de dérives. Avait-on besoin vraiment d'une loi à partir du moment où, effectivement, si on regarde ce qui a été fait, un petit point très rapide, j'ai parlé des soins palliatifs, alors tout le monde est d'accord des soins palliatifs, bon, il y a eu deux votes récents pour l'Assemblée nationale, vote à l'unanimité, c'est merveilleux, on est tous pour, bien évidemment, soutenons les soins palliatifs, on va mettre des moyens et tout. Attendez, c'est une hypocrisie sans nom. Il y a eu une loi. Si vraiment les gens reviennent un tout petit peu en arrière, il y a une excellente loi sur les soins palliatifs qui date de 1999. Rien n'a été fait, résultat des courses, on est à la traîne avec le nombre de lits de soins palliatifs probablement le plus faible en Europe, enfin l'un des plus faibles en Europe, avec une vingtaine de départements qui n'ont aucun service de soins palliatifs, et le Conseil d'État qui reconnaissait qu'il y avait un malade sur deux qui n'avait pas accès aux soins palliatifs. Donc, bon, très bien. Et là, je me suis aperçu, bon, revenant à la loi elle-même sur, effectivement, l'aide à mourir, dans un premier temps, je me suis dit, ah oui, bon, bah, effectivement, on l'a fait même avant l'autorisation de la sédation profonde, bien évidemment, on ne va pas laisser mourir les gens dans des souffrances atroces, complètement en fin de vie, on les soulage. Bon, et effectivement, fort heureusement, il a été admis que quand on peut soulager les patients et que de temps en temps, on n'a pas trop le choix, on doit utiliser des produits qui vont probablement raccourcir la survie dans de mauvaises conditions de ces patients. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un côté hypocrite, c'est que tout le monde, effectivement, bien entendu, est d'accord pour soulager ces patients, même si ça doit signifier une survie un petit peu raccourcie. Et puis alors là, les portes sont ouvertes, et en particulier quand on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, dans l'Oregon, au Canada, là, ça devient un peu inquiétant. C'est comme je le disais tout à l'heure, à part des souffrances physiques, introduites les souffrances psychologiques. Pour les Belges maintenant, on élargit les critères pour l'acceptation de l'aide à mourir aux mineurs, c'est-à-dire qu'un gosse de 12 ans peut demander une aide à mourir. Bon, là, moi,
les autistes peuvent demander une aide à mourir. Voilà, ça fait partie des amendements qui ont été rejetés. Certains députés disaient, après tout, si la personne est incapable de communiquer, peut-être que le fait qu'elle exprime la volonté de mourir est sans doute autre chose à comprendre. Non, pas du tout. Les autistes aussi ont le droit de mourir. On va vous interdire de les exclure.
Les autistes sont signalés, ils sont écrits noir sur blanc dans la loi des Pays-Bas. Les autistes, les dépressifs, les autistes peuvent demander une aide à mourir. J'ai entendu, je n'en suis pas absolument certain, mais j'ai entendu qu'au Canada, ils discutaient actuellement d'introduire dans les critères pour demander une aide à mourir d'être SDF. Donc SDF, vous êtes SDF, donc vous pouvez demander une aide à mourir. Effectivement, ça résout un certain nombre de problèmes, y compris économiques d'ailleurs.
François Marchand, c'est un aspect qui n'est pas dans votre aimable dystopie, voilà, où vous présentez le quotidien d'un médecin qui tue les gens parce que c'est son métier, et que la loi le permet et qu'il a des formulaires nécessaires pour le faire. Ce côté social, ça existe un peu effectivement avec le personnage de Charlotte, comme Marie-Charlotte du Bourblanc le soulignait tout à l'heure, mais le côté horrible qu'on voit chez les Belges, chez les Canadiens, avec de plus en plus de gens qui demandent à mourir, non pas parce qu'ils ont très mal, mais juste parce qu'ils se sentent inutiles, juste parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne donnent rien à la société, ils ont l'impression au contraire qu'ils sont un poids. Donc ce côté, en fait, comme d'habitude, l'euthanasie est une loi de riches qui a envie d'avoir le luxe d'idées modernistes et qui finissent en fait par précipiter la ruine des plus faibles. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas traité d'une manière plus, aiguë dans votre livre? C'est peut-être un reproche idiot que je vous fais.
Non,
pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit un autre bouquin que celui-là?
Ouais.
la question super maligne.
Mais il me semblait que dans le roman, là, le Toubib, il bute à peu près tout le monde quand même. Enfin, c'est assez universel, non?
Il bute tout le monde, mais on n'a pas l'impression qu'il y a trop de pauvres.
Ah oui, d'accord. En fait, ça, c'est ce que lui reproche sa fille, oui, de ne pas buter les pauvres aussi, dans un souci de justice sociale. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, hein, ce livre est dépassé déjà. Il va être dépassé très vite. Vous voyez, par exemple, je crois que j'avais mis, par exemple, que le délai de rétractation, c'est 3 jours. Et en l'écrivant, 3 jours, ça me paraissait monstrueux. Enfin bon, il faudrait que les rétractations soient de 50 ans, quoi. Et en fait, je crois qu'il est 2 jours dans le projet de loi, mais sauf erreur. Donc, vous voyez, en fait, tout est dépassé très vite, quoi. Ça va... À partir du moment où on rentre là-dedans, dans la barbarie, de toute façon, ça... La réalité reprend... Enfin, oui, la réalité va vraiment dépasser le roman, ça, c'est sûr.
Est-ce que c'est votre sentiment en tant que thérapeute que voilà, on est déjà entré dans la barbarie et que la réalité de cette loi qui s'approche à grands pas, on peut toujours espérer un ultime sursaut de la part des parlementaires et des législateurs, mais est-ce que vous avez vous-même l'impression que l'histoire s'est accélérée, qu'on a basculé dans quelque chose qui était encore inconcevable il y a 5 ou 10 ans?
Je pense que la question va s'adresser à moi.
Oui, pardon, excusez-moi.
Oui, tout à fait, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à ça, c'est qu'effectivement, je trouvais qu'il y avait un basculement. Je trouvais que la loi Claeys-Leonetti 2016 s'était déroulée, que les discussions s'étaient déroulées à un haut niveau éthique, médical, scientifique, moral. C'était bien passé, n'avait pas fait trop de bruit, qu'elle résolvait déjà beaucoup de problèmes. Alors peut-être pas tout, peut-être qu'effectivement il fallait un petit peu simplifier et faciliter l'accès à la sédation profonde et continue. Comme je l'ai dit, bien évidemment, il fallait aussi pousser, favoriser, développer les soins palliatifs. Mais là, actuellement, on a une espèce de bascule avec des dérives. Et comme ça a été dit beaucoup par certains collègues, c'est qu'on s'aperçoit qu'au départ, il y avait une volonté quand même de mettre des verrous. Bon, pour effectivement pas faire n'importe quoi et tuer n'importe qui, n'importe comment et tout de suite, un petit peu comme le raconte M. Marchand. Et ces verrous ont sauté les uns après les autres dans les discussions en commissions diverses et variées avec les versions successives de la loi. Et là, il reste des dérives. Il y a eu une autre tribune qui avait été écrite justement par Claire Fourcade. Bon, pourra-t-on éviter les dérives? Je pense qu'effectivement, elle faisait bien se poser la question, parce que quand on voit les dérives donc dans les pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, des fois en le disant clairement, et non pas en passant les mots sous silence, on peut être effectivement très inquiet. Alors, en France, là, la dernière version, bon, on n'a pas élargi aux mineurs. Mais par contre, je vous dis, encore une ambiguïté sur les souffrances psychologiques. Alors, est-ce qu'on veut euthanasier les dépressifs qu'ils demandent? Ça reste pas clair. Bon, et puis, il y a ce problème de délit d'entrave dont on a déjà parlé, qui me paraît totalement ahurissant et contre, effectivement, le rôle évident du médecin. On va dire que bon, j'ai commencé à faire un peu une liste de ces dérives, y compris les dérives d'utilisation criminelle. Ça va devenir assez facile en définitive, si on a un tant soit peu de connaissances médicales, des bonnes connaissances informatiques, d'arriver à convaincre quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie absolument épouvantable et qui va le faire mourir dans des souffrances atroces dans les mois qui viennent. Et à ce moment-là, lui faire demander une aide active à mourir. Enfin, on peut imaginer effectivement des dérives plutôt inquiétantes.
Toutes les pressions sont possibles. Merci beaucoup. Reste avec nous. On continue juste après un petit épisode publicitaire.